Montre-nous ton amour. Et nous voulons suivre Jésus qui marche librement. Alors, soutiens-nous comme tu l'as soutenu. Telle est la prière de l'Église, telle est notre prière. Tel est le chemin que Jésus nous ouvre. Et il nous faut apprendre à voir cet amour, à le reconnaître, à comprendre comment Jésus accomplit toute chose. De l'Écriture, comme la lecture que nous venons de faire de l'Évangile, ne cesse de le répéter, comme il accomplit aussi l'enseignement qui jaillissait de lui et qu'il nous a donné. Pas simplement pour que nous évoquions, comme risque de le faire le jeu de la Semaine Sainte qui nous fait revivre, mais pour que nous rentrions avec foi et détermination dans ce chemin. Et vous entendez bien cette prière, « Soutiens-nous comme tu l'as soutenu. » Et nous sommes appelés à revisiter nos ténèbres, j'allais dire, à revisiter nos souffrances, à revisiter nos incapacités d'être libres, mais pour y laisser rentrer la grâce de Dieu, le comportement de Dieu, tel que Jésus le vit, tel que Jésus nous l'enseigne, tel que Jésus nous le donne. Vous aurez remarqué que dans ce chemin de la Passion, il y a 5 lieux, 5 marches, pour avancer, découvrir, vivre et réappliquer d'une manière profonde tout ce que nous avons déjà vécu dans l'Évangile. Le premier lieu, c'est le mont des Oliviers, en bas du mont des Oliviers, en plein milieu des Oliviers, où Jésus est avec ses disciples, là où il se retire souvent après avoir enseigné à Jérusalem, et il a prié. Il a prié profondément dans ce que l'on appelle le grand combat, c'est-à-dire l'agonie de Jésus. Et il y a là quelque chose de décisif. Jésus, comme le rappelle le texte d'Isaïe, est venu porter nos péchés. Il était accablé, sans beauté, ni éclat, rejeté de toute manière. Et tout ce qui fait notre humanité, tout ce qui fait nos souffrances, nos incohérences, toutes les conséquences et actives ou passives du péché en nous, il les revêt. Mais pourquoi les revêt-il ? Il les revêt, il prend sur lui nos péchés, notre mal, pour nous donner sa prière, c'est-à-dire son lien à Dieu, sa liberté par rapport à Dieu. Et c'est très bien exprimé dans Saint Jean, dans le passage qui évoque l'agonie chez Saint Jean, où quand Jésus dit « Mais Seigneur, que cette coupe, c'est-à-dire cette souffrance, ce destin, ce tragique que je suis en train de vivre, eh bien, s'éloigne de moi. » Et contrairement au synoptique qui nous donne juste le résultat, ici on voit le débat qu'il y a à l'intérieur même de Jésus en disant « Mais comment dirais-je cela ? Parce que c'est pour ça que je suis venu. » Et en échange de nos péchés, Jésus nous donne sa relation filiale. Non pas comme quelque chose pour une décoration, un ornement sur une médaille, sur notre blason, blazer, mais comme une source jaillissante. Et on le voit tout de suite dans ce jardin, alors que viennent Judas qui le trahit avec les gardes, les soldats, avec des armes, des bâtons et tout ça. Eh bien, alors que Pierre est tenté de réagir, quand même, on va réagir devant cette injustice, et il sort son épée, et Jésus lui dit, remets ton épée au fourreau. Ne te laisse pas, parce que, et on reprend le vieil adage de la Genèse, déjà au chapitre 9, qui fait l'homme qui périt, qui fait périr par le sang, eh bien, qui fait répandre, l'homme qui répand le sang, son sang sera répandu. Qu'il fait périr par l'épée, mourra par l'épée. C'est ce même verset qui est cité. Ne réponds pas au mal par le mal. Ne te laisse pas contaminer, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne bouge pas de cette bonté que le Seigneur a mise dans ton cœur, et spécialement au baptême, parce que ton cœur est fait pour être une source et non pas rentrer dans cette escalade de la violence. C'est le cœur de l'enseignement de Jésus sur ce qu'on appelle sur la montagne. Cet enseignement de Jésus qui nous apprend à « tu aimeras ton ennemi », etc. Et Jésus va rentrer, va avancer, mais dans une liberté extraordinaire, dans une force. C'est ça qui est étonnant. C'est que Jésus, qui est à la fois l'agneau livré, sa liberté en impose, sa liberté dérange. Et ils ne peuvent rien faire contre sa liberté intérieure. Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth, c'est moi, je le suis. Et tout le monde est saisi, fait trois pas en arrière et ils se tombent les uns dessus les autres. Parce que Jésus a cette majesté, cette liberté majestueuse et cette force pour affronter le mal. Car ne pas répondre au mal, mais par le bien, ce n'est pas fuir, comme nous serions tentés de le faire ou de le penser, mais c'est au contraire affronter cette souffrance, affronter ce rejet, affronter ces difficultés que le bien a dans notre monde, a dans notre cœur. Le deuxième lieu qui nous donne un deuxième tableau, c'est au palais du grand prêtre, de Caïphe, avec Pierre qui est dans la cour. Mais il y a cet événement, je m'attacherai ici surtout à cet événement encore en regardant comment Jésus aime. Alors qu'il est interrogé par le grand prêtre, il y a un garde qui fait un excès de zèle et qui gifle Jésus d'une gifle magistrale, qui le fait tituber. Mais Jésus lui répond. C'est étonnant. Si on n'analyse pas bien l'évangile, on dit si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Jésus ici ne fait pas ça. Ou du moins, il le fait plus profondément, il le fait avec intelligence. Il nous donne la clé de ce que ça veut dire. Il répond. Et il dit, mais si j'ai mal parlé, montre-moi comment j'ai mal parlé. Si j'ai bien parlé, alors pourquoi me frappes-tu ? Comme il ne se laisse pas entamer par le mal, eh bien, il peut interroger l'autre, prendre un autre point de vue pour essayer de réveiller, si c'est un homme de bonne volonté, de réveiller sa sa propre capacité de réfléchir de l'ennemi. Quand nous n'entendons pas avec quelqu'un, il ne suffit pas de discutailler, de dire « moi j'ai raison », mais de pouvoir entamer un vrai dialogue, alors qu'il n'y a apparemment pas possibilité de le faire. Mais Jésus ne désarme pas, parce qu'il considère son ennemi comme une personne. Et il compte avec aussi son intelligence. Dans le troisième tableau, nous sommes avec, dans le palais de où se trouve Pilate, dans le prétoire. Et Jésus l'interroge, et ça nous ramène encore à l'enseignement de base de Jésus sur ce qu'est le royaume de Dieu, comment vivre de cet amour de Dieu. Quand il dit, mais il est interrogé, et on lui demande, es-tu le roi des Juifs ? Et Jésus répond, mais dis-tu cela de toi-même ? Ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet ? Et là, on rejoint encore un de ces enseignements fondamentaux de Jésus, comme je vous disais, quand il nous demande, quand tu parles, parle en disant la vérité. Quand tu parles, parle comme un sujet, et non pas simplement suivant l'avis des autres, ce que pensent les autres. Il nous suffit de voir comment nous vivons, comment on influence les médias sur les opinions des uns des autres, comment on retourne, comment on forme des opinions pour voir combien nous réfléchissons peu personnellement et combien très peu nous parlons en notre propre nom. Pourtant, Jésus, comme condition, la condition, c'est pas au conditionnel, mais comme chose de base, comme nécessaire, suffisant pour avancer, il nous demande de parler en notre propre nom. Si tu fais l'aumône, si tu pries, si tu jeûnes, ne le fais pas pour le regard des autres, mais fais-le parce que tu penses que c'est bien. Tu as compris que c'était bien. Alors ton Père qui est dans le secret, eh bien, il te le revaudra. Sinon, il ne se passe rien, tu n'existes pas encore. C'est les autres qui parlent. Et ici, c'est tout ce dialogue, alors ce lien de parler avec le pouvoir qu'il tient, et Jésus, j'allais dire, se joue de lui, parce qu'il lui montre que n'a pas compris encore que mon royaume n'est pas de ce monde. Nous rêvons tous et nous rêvons tous encore, hein, et encore, comme les apôtres, le matin de l'Ascension encore, quand est-ce que tu vas venir rétablir enfin un pays où il y a de l'ordre, de la sécurité, de la justice sociale, des valeurs familiales, etc., et qu'on soit débarrassé de tous ceux qui nous mettent dans la mouise. Or, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est pas de cela que Jésus vient faire. Il vient nous inviter chacun à nous convertir, il vient nous inviter chacun à laisser sourdre la source, l'Esprit Saint que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour que nous soyons bons, pour que nous soyons purifiés, pour que notre humanité puisse donner tout son fruit, l'humanité de chacun. Quatrième lieu, le Golgotha, le lieu du crâne. Évidemment, Jésus étant crucifié, ces paroles se font rares. Mais elles sont prégnantes. J'ai soif. Et ça nous ramène directement ce « j'ai soif » avec le « j'ai soif » du chapitre 4 de la Samaritaine, où, et comme dit les commentaires des pères en disant « c'est de l'eau vive, bien sûr, qu'il a soif, celle qui va donner ». c'est de la foi. Si tu savais le don de Dieu, celui et celui à qui tu le demandes, c'est toi qui l'en aurais prié de te donner de l'eau vive. Cette eau qui est une source encore jaillissante en vie plénière, en vie éternelle. Il n'y a pas de vie chrétienne si nous ne vivons pas de cette plénitude. La vie chrétienne n'est pas l'homme qui fait ses efforts pour être bon, pour être grand, pour être ceci, avec Dieu lointain. C'est celui qui accueille le don de Dieu aujourd'hui. Comme dit saint Jean dans son épître, c'est celui qui a l'Esprit Saint. Non pas encore comme une décoration, comme un pouvoir, mais qui laisse sourdre, qui abandonne la domination, la convoitise, le fait de tout ramener à soi, de se mettre au centre, qui nous étreint profondément dans notre humanité, pour avoir cette humanité qui est faite pour être relation. Ce « j'ai soif », il est entouré de deux paroles, le « tout est accompli ». C'est ainsi que Jésus envisage, vit. Jésus n'est rien venu inventer dans ses paroles. Il est venu accomplir. Il nous ramène toujours à la loi, aux 10 commandements, mais non pas d'une manière formelle, mais dans le cœur, c'est-à-dire dans le dernier des commandements qui tu ne convoiteras pas. Et on reprend, Jésus reprend tous les autres commandements par la finalité, qui est cette purification de l'eau qui coule en nous, afin que ce soit une eau pure. C'est assez amusant, on fait aujourd'hui des projets pour pouvoir, d'ici une dizaine d'années, pouvoir se baigner à nouveau dans la Seine ou en boire l'eau à Paris. Si ce projet nous laisse quelques doutes, ne laissons pas douter que Jésus a ce projet de nous faire, jaillir en nous cette eau pure. Et ne nous laissons pas décourager, comme trop souvent les chrétiens, en disant « mais c'est pas possible cette vie, c'est trop ce que vous demandez ». Si, il suffit d'accueillir ce don de Dieu. Et vient à notre secours celle qui a écouté la parole de Dieu, sa mère, qui est vraiment mère. Et c'est intéressant de voir ici, dès ce quatrième lieu, un quatrième tableau, de voir arriver les gens autour, non plus dans la déroute, comme Judas, comme Pierre, comme ceux qu'on a vus, mais de voir ici des gens qui commencent à vivre pleinement. Marie, qui est debout, qui participe à cet acte d'offrande de Jésus, qui en a déjà compris, peut-être pas en faisant des discours, mais avec l'intensité de son cœur et de sa présence, que c'est de notre rédemption, c'est de cette purification, et c'est de les multitudes qui seront purifiées, qui seront rédemptées par ce sacrifice de Jésus. Et demandons à Marie, justement, de nous accompagner dans cette intelligence, de voir cet amour et concrètement de nous laisser soutenir par cette vie divine qui vient en Jésus et qui nous est donnée dans la grâce de l'Esprit Saint à laquelle nous sommes appelés à communier. Et puis le cinquième lieu, ce n'est plus ce petit piton rocheux, là, ce rocher du Golgotha, c'est juste à côté, mais c'est un jardin. Alors, il n'y a pas de parole de Jésus, mais il y a quelque chose qui parle encore plus fort, c'est cette eau et ce sang qui coulent, qui sont comme cette parole ultime, de Dieu qui fait parler le Verbe alors qu'il n'a plus le larynx pour pouvoir prononcer et le souffle pour dire, mais c'est encore par tout son corps avec cette eau et ce sang dans laquelle nous reconnaissons bien sûr la grâce de l'Esprit Saint et des sacrements que le Seigneur nous donne pour vivre pleinement. Et alors commence déjà ici le ballet de ceux qui commencent à renaître. Vous avez Joseph d'Arimathie qui avait peur, qui ne pouvait pas se prononcer pour Jésus, etc. Et qui, devant cette reconnaissance de l'amour de Jésus, s'engage, ose aller affronter Pilate. Je ne sais pas si vous voyez, avec tout le tintamarre que ça a fait, toute la colère, etc. Eh bien, il ose se démarquer, il ose croire. De la même manière, Nicodème, qui lui aussi avait peur de Jésus, qui a bien essayé au début de l'interroger la nuit, et puis la nuit, parce qu'il fallait surtout pas se faire repérer, qui après essaye d'intercéder, on peut pas le juger cet homme sans qu'il soit entendu, etc., mais qui se fait rabrouer, et là, il sort du bois. Bien, demandons la grâce dans notre vie chrétienne, en cette Pâque que nous célébrons cette semaine, de pouvoir, avec notre foi, sortir du bois de notre inintelligence de Jésus, de nos efforts, mais où nous n'avons pas encore accueilli des zones de notre cœur, où nous n'avons pas encore accueilli le Seigneur pour lui demander qu'il vienne en plénitude et que nous puissions célébrer cette Pâque dans la joie et dans les fruits que nous explicitera la grâce de Pentecôte qui terminera le temps pascal.